Chapitre 8. 8 semaines se sont écoulées, mais depuis aujourd'hui seulement, sur la scène des gaietés modernes, devenue théâtre de 10 heures, la troupe n'en est plus réduite à hurler les répliques de Madame Rimbaud-Orion dans l'épouvantable canonnade dont les étouffent les barbares charpentiers, casseurs de têtes et batteurs de ferraille, lâchés comme un pays conquis par le désastre effondré de la salle. À 7 heures, tout est dit, ou presque. Un coup de balai au plancher, un coup de brosse au drap des portières, un coup d'asticage aux dorures, et ma foi, on pourrait entrer. Déjà, un dix précurseur, courent les potins par les journaux, des filets de 15 à 20 lignes, où les courriéristes intrigués, dont l'appétit d'information s'est 50 fois cassé le nez aux portes inexorablement closes du théâtre, au mystérieux sourire d'Amiet enfermé dans le geste discret d'un homme qui ménage des surprises, parlent à mots couverts d'innovations heureuses, lâchent à tout hasard d'habiles sous-entendus dont s'émeut la curiosité publique. Quelques bruits même ont transpiré. L'idée a surprise et séduit du banal fauteuil d'orchestre transformé en grand confortable, et on ne songe pas sans une certaine émotion à cet extraordinaire foyer dont a parlé le Figaro, une serre encombrée d'exotiques verdures, où des tziganes authentiques joueront des xardas ou des valses, tandis que des valets de pied en culottes cerises promèneront sur leurs mains gantées des plateaux chargés de verres de punch, de coupes de champagne et de glace, et qu'un cinéma en couleur initiera pour rien le public de l'entracte aux événements de la journée. La pièce est d'ailleurs annoncée le quadruple colombier et on maillote le fait des colonnes picard d'un rose pâle de truite saumonée où s'enlèvent en vermillon de coquelicots ces mots. Théâtre de 10 heures, incessamment, première représentation, Madame Brimborion, opéra bouffe en 3 actes. Or, ce soir-là, un reporter astucieux qui se fut faufilé sans bruit par une porte entrebâillée, puis embusqué derrière le grillage d'une baignoire, eut goûté la satisfaction d'entendre la jeune Hélène chanter les couplets que voici. Jean, reconduisez cet idiot avec les égards qu'il comporte. Dites-lui que devant la porte passe le tramway de Chaillot. S'il revient jamais pour me voir, dites-lui que je suis souffrante auprès de ma mère expirante ou pas de retour du lavoir. Ces jolis vers extraits de Madame Brimborion n'étaient pas de Robert Cosal, comme un vain peuple serait porté à le penser, mais bien de Frédéric Amiet, ce qui n'étonnera personne. Celui-ci avait lu la pièce de son ami, et il l'avait prisée, comme il convenait, à cela près pourtant de quelques remaniements. Oh, les rien de petit nettoyage dont il se chargerait lui-même. Il avait donc confisqué le manuscrit, et en moins de 8 jours, suant, peinant, ajoutant ici, rognant là, avec la fièvre d'emballement d'un gars qui a raté les débuts de sa vie et qui se découvre tout à coup la vocation insoupçonnée, il avait converti le texte primitif en la folie la plus extraordinaire qu'ait jamais conçue l'invention d'un pensionnaire de Ville-Évrard. Après quoi, il avait donné à copier. Aussi, Cazal, pour commencer, avait-il poussé le beau cri des glapissements de mère poule dont on a changé la couvée en une nichée de jeune rat. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une plaisanterie. Le docteur, et quel docteur? Il y a un docteur? Estambourg-Major, je ne connais pas. Et cette petite marchande d'oubli qui chante « Voilà le plaisir, messieurs. Mais d'où diable sort-elle, celle-là? Oh non d'un chien, le tramway de Chaillot. Le tramway, le chariot sous Louis XV. Il y avait un docteur, en effet, l'homéopathe Bougre d'âne, gâteux et congestionné, l'incarnation même de l'acteur Gaubret. Il y avait un tambour-major, oui, il y en avait un aussi, et de même une petite marchande de plaisir, dont les couplets à double entente étonneraient d'audace et d'ingéniosité. Quant au tramway de Chaillot, il n'était rien moins qu'à sa place, Madame Brimborion, en 8 jours, ayant rajeuni de 2 siècles, devenue fleur de suburbain, de répétition générale et de moderne 5 à 7. Une grue, quoi, avait dit Cosette atterrée. Mais l'autre l'avait convaincu d'un brillant mouvement oratoire. Fini le Louis XV, décati le Louis XV, mort et enterré le Louis XV. Le public n'en voulait plus. L'opérette en chapeau de soie et en pantalon de couleur, là était désormais la vogue. Les récents grands succès des bouffes l'attestaient surabondamment. Il eut une absurdité à lutter contre le courant, se calfeutrant dans le rococo, malgré la loi et les prophètes. Ainsi avait parlé Amiette, riandaise, la prunelle visitée d'une flamme, et devant une telle assurance, Causal, bonne bête, avait faibli, puis cédé, repris pour son compte et consolidé tant bien que mal de quelques couplets d'un duo et de plusieurs bons mots inédits, les ajoutés du merveilleux et redoutable Frédéric. En sorte qu'on achevait maintenant de mettre en scène. Il était 3:45. Les artistes exténués, accrochés depuis une grande heure par une fin d'acte impossible, tremblant d'ailleurs pour leur dernier métro, tiraient leurs montres, cachaient de la main leur bâillement, tandis qu'Amiette, impitoyable, s'entêtait à régler le mouvement quand même, se tuait, ainsi qu'il le disait, à essayer de se faire comprendre. C'est pourtant bien simple quand le diable y serait. Et à lui seul, il joua toute la scène, faisant successivement Madame Brimborion, Jean, reconduisez cet idiot, puis éclatant à fond, en pétarade dans les lèvres, Saint-Jean la mimique de Gaubret, l'homéopathe Bougre d'âne, mis à la porte, la chose est forte, Jardy Coton, pour qui me prend-on ? Puis encore une fois, Madame Brimborion, renversée dans le dos d'une chaise longue, affectant un dédain hautain de grande dame à laquelle un rustre a manqué. Jean, expulsez ce polisson, Jean, expulsez ce polisson, d'un coup violent de sandales, jetez-le sur le paillasson. Et enfin, le cœur tout entier, versant sur Bougre d'âne un pleur, chassé de ses lieux sales pattes. Quel coup pour un homéopathe, au revoir, monsieur le docteur. Voilà tout, conclut-il avec l'audace tranquille des gens qui tranchent les questions sans en connaître le premier mot. Hé, vous autres là-bas, les gamines, un peu de silence, dans les cintres. Vous voulez occuper le fond de la scène et vous ranger en double S sur le passage du docteur. Julia Trémise, Berthe Andouard et Lucie Tebalois à droite, Rose Martin et Sœur Javanetti à gauche. Ce sera très bien ainsi. Les acteurs, stupéfaits, se regardèrent. Le père Baudruc, qui 20 ans avait mis en scène aux Folies et qu'Amiette venait d'envoyer coucher en le traitant de vieille bête, eut un sourire au coin des lèvres. L'ignorance crasse, doublée de toupet infernal du patron, récréait fort ce vieux finaud, nourri de la moelle des lions et pétri jusqu'au bout des ongles des saines traditions d'Offenbach. Très bien, oui, oui, ce sera très bien, affirma de nouveau Amiet, à qui le manque d'enthousiasme de sa troupe commençait de porter sur les nerfs. Il s'était approché de la rampe et de là, il fouillait le crépuscule de la salle, cherchant Causal qu'il savait à l'orchestre. C'était un puits d'ombre confuse où flottaient les dorures éteintes des girandoles et les nappes livides des housses couchées sur le velours des balcons. Les cristaux du lustre descendus, reposés au dossier des fauteuils, jetaient dans le lointain des traits phosphorescents et à la lueur d'une servante dressée près de la boîte du souffleur, on distinguait le rire idiot de deux cariatides aux yeux vides qui soutenaient de leurs épaules voûtées les avant-scènes de seconde. Il demanda « Tu es là, vieux ?» Il se tutoyait à présent. « Je suis là, oui. Ah bon, ça va bien ?»« Mon Dieu, oui, » répondit Causal de la même voix dont il eut répondu « Mon Dieu, non. Je trouve cela assez gentil, hein ?» À ces mots, « Eh bien, vrai, vous n'êtes pas difficile, » fit tranquillement Stéphanour, de qui le fauteuil en rang plus bas ne suffisait pas à contenir l'importance. « Je trouve ça imbécile, moi. C'est le dernier mot du vulgaire, de la banalité et du manque de goût. » Depuis qu'Amiette avait voulu mettre la main à la partition de Stéphanour, et que Stéphanour, suffoqué, avait parlé d'étrangler Amiette à la première tentative risquée sur un de ses bémols, Amiette et Our étaient à couteau tiré. Contraints de discuter des intérêts communs, ils le faisaient par l'intermédiaire d'un « on » vague, tiers chimérique qu'ils questionnaient quand le besoin s'en faisait sentir et qu'ils agonisaient d'injures quand l'occasion s'en présentait. Amiette ne releva donc pas, si ce n'est d'un haussement apitoyé de l'épaule, l'appréciation du musicien. Seulement, les acteurs lui ricanant dans le dos, sa bile à grand-peine contenue déborda. Il fit un brusque volte-face. Il cria « Qu'est-ce qui se permet de rigoler ? Je colle 50 francs d'amende au premier qui me pèse ma tête !» Sortie brutale qui jeta un froid. Dans le grand silence qui suivit, on entendit les voix lointaines des choristes en train de répéter au foyer. Amiette, très monté, poursuivit. Alors il dit qu'il n'avait pas de conseil à recevoir et qu'on serait malvenu à le prendre pour un jocrisse. Petit à petit, il s'emballait. Autour de cette corneille turbulente, les noix recommencèrent à pleuvoir dru comme grêle. Il ne fut vraiment satisfait que lorsqu'il eut, d'une bravade insolente, jeté les artistes hors d'eux et que leur meute déchaînée hurla de rage après ces choses. Alors il put brailler tout le sou à son aise, trancher de l'omnipotent, faire résonner sa canne au plancher machiné de la chaîne. Un moment vint où on ne s'entendit plus. Les deux Giovanetti, qualifiés de volailles, sanglotaient à l'unisson. Lucie Toralba, traitée de buse, n'admettait pas qu'on insultât les femmes après avoir couché avec, et soutenue en cela par le chevaleresque Pouperolle, une perle de Tenorino, qu'Amier avait découvert par hasard dans un boui-boui du point du jour et engagé séance tenante. Et une chose qui porta le tumulte à son comble, fut la nouvelle, lâchée soudain comme un pétard au plus chaud de la discussion, que Madame Brimborion passait le jeudi d'après. Il n'y eut qu'un cri. « Jeudi ? Jeudi ? Jeudi prochain dans 6 jours ?» Parfaitement. Oh, on crut à une blague. Point du tout. C'était absolument sérieux. Et la façon dont il proclama par 3 fois « Oui, jeudi, jeudi, jeudi !» Est-ce compris, oui ou non ? Enleva toute espèce de doute à cet égard. D'ailleurs, dans la minute d'ahurissement qui accueillit cette déclaration, il développa sa pensée. Ben, quand serait-ce alors ? Vendredi ? C'est la reprise de Coq en pâte aux bouffes. Samedi ? C'est la première d'un gros ami de province. Dimanche, c'est la représentation d'un dieu de Carbonneau. Alors quand, je vous le demande? Eh, sans que vous vous en doutiez, j'ai 2 000 francs de frais par jour, moi. J'y suis de 60 000 balles à l'heure qu'il est. Et après? Interrogea Ourde, de qui la silhouette furibonde se dressa dans la nuit indécise de l'orchestre. Qu'est-ce que ça peut me foutre tout ça? Ce que j'ai à entrer dans ce détail-là? La pièce est pas prête, voilà le fait, et j'en laisserai certainement pas compromettre le succès forcé pour satisfaire aux fantaisies d'un épileptique. Conciliant. Oh, voyons, fit Casal, voyons. Mais où? Mais rien n'est sûr, rien, ni la musique, ni la pièce. Où sont les costumes, où sont-ils? Et le décor, où est le décor? J'exige qu'on nous montre le décor. Est-ce qu'on se fout de nous à la fin? La représentation n'aura pas lieu jeudi. Je la ferai interrompre et interdire par ministère d'huissier. Par huissier? Amieux se tordit, lâché dans un de ces rires bruyants dont des milliers et des milliers de soufflets ne paieraient pas l'impertinence. Il répliqua qu'il se fichait des huissiers, et plus encore de ceux qui les faisaient venir. Et cette aménité en amenant une autre. Le directeur et le musicien échangèrent des bordées d'injures, toujours à la troisième personne. Amiet prit le dessus enfin. À vrai dire, il bénéficiait de son sang-froid, alors que la fureur de Ours s'étranglait en de vagues et rauques aboiements. En vain, ce malheureux éperdu, on appelait à son collaborateur, répétait « Mais parlez, Cosa, mais parlez donc, allez-vous nous laisser égorger par ce fou ?» Amiet couvrait tout de sa voix comme Richelieu de sa pourpre. Sa conclusion fut un arrêt de cours sans appel. J'ai dit que nous passions jeudi, je le répète pour ceux qui n'ont pas entendu. Le service à la presse est fait, la garde commandée et tout, et j'ai donné il y a 1 heure le bon à tirer de l'affiche. C'est dire qu'il n'y a pas à revenir là-dessus. Par conséquent, voici l'ordre et la marche. Demain, dimanche, lundi, mardi et mercredi, dernière répétition d'ensemble. Jeudi, à 1 heure, répétition des couturières à 8 clos, et dans le décor, et à 10 heures, la générale. Il dit et s'épongea le front. Sur quoi, content d'avoir fait le dictateur et coupé la chic au malin, il s'apaisa sans transition. « Voyons, mes enfants, je vous en prie, un peu de bonne volonté, que diable. Vous ne voulez pas notre mort. » Il pirouetta, vint tendre la main à Modruc qui adossait à important son quant à soi et sa dignité offensée. « Oh, je vous demande pardon, Modruc. Je vous ai un peu secoué tout à l'heure, allez, sans rancune, hein. Vieil artiste, beaucoup de talent, plein de conscience, ne m'en voulez pas, cher ami. » Et le vieux Modruc, très flatté, n'avait pas dit « mais non » qu'on entendait déjà le rire consolé des deux sœurs Giovanetti, empoignées chacune à la taille et embrassées, l'une à droite, l'autre à gauche. Ces continuels soubresauts d'écureuil laissait les gens effarés sans fiel. D'un mot, Lucie Thoralba, qu'il venait de baiser, elle aussi à pleines lèvres, résuma ce qui en était. C'est un peu rigolo tout de même, qu'on ne puisse jamais lui en vouloir à cet idiot-là. Lui était revenu à la rampe, les mains l'une à l'autre tapées. Allez, enchaînons, enchaînons. Au trop, Gobray, mon vieux, la réplique. Mais Gobray, confidentiel, la phrase murmurée à la bouche close et présentée comme une fleur, eut juste le temps de placer 10 mots. « Halte !» L'acteur se tut. tournait la main en visière sur les yeux dans la direction du fauteuil où il savait son ami installé. « Dis donc, Kozal, criait à présent Amiet. « Présent ?» répondit le jeune homme. « Mon cher, j'ai une idée. Oh, tu m'étonnes. Épatante. Si le docteur était ventriloque... »«
Ventriloque ?»«
Oui, à propos de quoi ?»« Oh, ça donnera une scène très drôle, tu vas voir. Le rideau lève, bien. » Le décor représente le cabinet du docteur Bougredane, l'homéopathe bien connu. Le docteur, qui est seul en scène, tu as bien compris, seul en scène, est engagé avec lui-même dans un dialogue à plusieurs personnages, au cours duquel successivement, et avec des voix différentes, il se pose des questions, se donne des réponses, s'interroge, se renseigne, se désole, se rassure... prononce tour à tour en voix de basse « Je suis perdu, hein, docteur ?» en voix de fausset « Mon mal est sans remède, n'est-ce pas ?» en voix de femme « Docteur, sauvez-moi, je n'ai plus d'espoir qu'en vous !» enfin de son organe naturel « Calmez vos craintes, mes chers clients. Vous êtes bien bas, tous les trois, mais ma science est illimitée et avec l'aide de Dieu, je jure de vous guérir. » Allez comme ça, pendant 5 minutes. Naturellement, dans la salle, épatement, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fiche, celui-là, il est fou. À la fin, tout s'explique. Le docteur est une vieille crapule qui, ne faisant pas un sou d'affaire, pratique la ventriloquie à l'attention des rares clients amenés chez lui par miracle et qui laisse poireauter dans le salon d'attente, tandis qu'à travers la cloison transpire la rumeur aux 100 bouches d'un cabinet achalandé. Hey, qu'en penses-tu ? Elle est bonne, hein ? La scène est très drôle, en effet, répondit gentiment Kozal, partagé entre un vague doute et la peur de désobliger le camarade qui l'adulait. Malheureusement, nous n'en avons pas le placement, et à moins de faire un acte nouveau, tout exprès pour l'utiliser... Ce mince détail avait échappé à Amiet, qui en accueillit le révélé avec beaucoup de belle humeur. Il confessa qu'il était bête de n'avoir pas songé à cela, qu'au surplus cela ne faisait rien et qu'il trouverait autre chose. Puis, ayant rendu à Gobret la parole qu'il lui avait reprise, il se lança dans les démonstrations d'un enthousiasme exaspéré. « Oh, bravo, très bien, excellent! C'est le dernier mot de la perfection, oh, mon cher, je vous prédis un triomphe !» Son exaltation, pourtant, devait ne plus connaître de bornes. Et lorsqu'Hélène eut jeté au vide noir de la salle le cordeau, assez drôlement venu des granules homéopathiques, oh, il fut impuissant à se contenir. Il ne proclama rien moins que la résurrection de la grande des Jazets, qu'il n'avait jamais vue d'ailleurs. L'art d'Hélène, tout d'intelligence et de trucage, était de faire croire qu'elle avait une voix alors qu'elle n'en avait pas, et de persuader les gens de choses qui n'avaient pas lieu. Le drôle de petit voyou, la drôle de petite fille... déconcertante de monstruosité naïve et de candide perversité. L'idée qu'un mot, fût-il le plus banal du monde, pouvait ne pas être une saleté, dépassait sa compréhension, et on demeurait confondu à l'entendre indiquer des énormités avec l'inconsciente aisance d'une gamine de 5 ans récitant à sa mère en manière de compliment le pou et l'araignée ou l'examen de Flora. Ce qu'elle mit dans les granules, ce qu'elle fit rendre à cette théorie des semblables s'accouplant les uns aux autres pour le grand soulagement de l'humanité. Un machiniste assis dans le manteau d'Arlequin en eut un hochement de la casquette. Et Kozal, qui jamais de la vie n'avait songé à en chercher si long, sécha son front baigné de sueur, doutant de soi, troublé, comme un homme qui se trouve à l'improviste des instincts de faux monnayeur. Puis comme Mamiel lui demandait « Qu'est-ce que tu penses de cela ?» Semblable au baron de Sigognac découvrant une rose entrouverte, poussée miraculeusement parmi les ronces, les églantiers et les épines de son pauvre jardin. Je ne croyais pas mon parterre tant fleuri, dit-il avec un sourire. Oui, c'est tout à fait bien, Hélène. C'est simplement une très grande artiste, décréta Amiet, qui se magnifiait en dedans, enorgueilli d'avoir eu le flair d'avoir mis le doigt sur la perle. Dans le même instant, du contrebas de l'orchestre, c'est bien ce que j'avais dit, elle est au-dessous de tout, fit la voix de Stéphanour. Amiet bondit. Tonnerre de Dieu, c'est pas fini de troubler la répétition. Va-t-on nous laisser travailler ? Une fureur l'emballait. Sur la coque recourbée de la boîte du souffleur, il abattit une volée de coups de canne. Ainsi, au théâtre Guignol, on voit Polichinelle roué de coups l'échine pliée du commissaire. Puis-je le mettre ici, oui ou non ? J'interdis à qui que ce soit d'élever la voix en ma présence. Les brutes seront toujours les brutes, crut devoir affirmer Stéphanour. J'allais le dire, répliqua Miette, nous n'en aurons jamais une preuve plus éclatante. C'est pour moi, ça ? Oh, c'est pour qu'ils veulent prendre, quand on est morveux, on se mouche. Du coup, goujat, fit le musicien. Voyou, riposta le directeur. Énergumène, sombre idiot, ça se gâtait. Avoir Stéphanour se dresser en diable à surprise, s'élancer les poings en avant vers le marchepied adossé à l'orchestre des musiciens qui reliait la salle à la scène, on crut très sérieusement que la farce allait échouer dans le mélo. Par bonheur, les dieux veillaient. Il n'avait pas effleuré de sa semelle le premier pas du praticable, que déjà il tournait casaque, haussant l'épaule, inondant le sol d'un jet méprisant de salive. Et puis voulez-vous que je vous dise, je fous le cante et j'aime mieux ça. C'est cela, clama Amiette, cavalez et qu'on ne vous revoie plus. Quel débarras, bonté divine. Ah, on va donc enfin pouvoir. Quoi ? C'est, hélas, ce que l'auditoire demeura inapte à connaître, les paroles de l'orateur s'étant noyées à l'instant même dans le charivari de verre cassé qui signalait le passage de Our par le vestibule de sortie aux portes vitrées et battantes. Les dents serrées, sauvages, murmura Amiet. C'est tout ce que lui dicta son appétit de vengeance. Telle fut d'ailleurs son allégresse à sentir l'ennemi disparu, qu'il en devint tout à fait exquis. Il leva la répétition, déclara que, vu l'heure tardive, ces dames et ces messieurs étaient autorisés à prendre des voitures au compte de la maison, et envoya le garçon d'accessoires chercher des bosses et du champagne que l'on sabla debout au succès de la pièce, autour d'un guéridon de jardin trouvé flânant dans la coulisse. Ce diable d'homme entraînait des foules à ses trousses, les ralliait à ses convictions, comme jadis à son panache blanc Henri IV ralliait les armées. C'est avec une bonne foi naïve, exempte de toute arrière-pensée, qu'on célébrait d'ores et déjà la 200e de Madame Brimborion. Lorsque lui, soudainement, « Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Causal. « Tu as avalé de travers ?»« Non, une idée. Encore ! Oh, épatante ! Si le docteur avait le diabète et le tambour-major aussi ?»« Le diabète ?» répéta Causal stupéfait. « Oui ! Bah, je vois pas bien. Ah, laisse-moi parler, tu vas voir. » Une supposition, n'est-ce pas, que le tambour-major et le docteur ont le diabète tous les deux. Bon. Une autre supposition, qu'ils fréquentent le même café et qu'ils prennent tous les soirs l'apéritif ensemble. Bon, tu admets ce postulat? Bon, jusqu'ici, oui. Alors voici ce que je te propose. Au lieu de jouer, par exemple, au piquet ou au domino, ils jouent le vermouth à l'analyse d'urine. C'est le docteur qui fait l'analyse, et celui des deux qui a le plus de sucre paie la consommation de l'autre. Qu'en penses-tu? Hein, elle est bonne? Et sûr de sa trouvaille, cet être délicieux, promenant autour de soi les yeux ruisselants de gaieté, de douceur, d'intelligence, riait d'offrir général dont l'assistance saluait une fois de plus sa fécondité inventive. Au sourire de Causal aussi, dont la finesse naturelle rebutait aux outrances du grotesque et de la charge, et qui, séduit et choqué tout ensemble, murmurait que, oh, sans doute, évidemment, bien sûr, que, oh, mais pourtant, d'autre part, enfin, peut-être, tranchait finalement la question en la renvoyant au lendemain pour information plus ample. Or, ce même lendemain, comme il sautait du lit, il aperçut à terre le rectangle azuré d'un pneumatique que son concierge lui avait glissé sous sa porte. Il le releva, l'ouvrit et lut. Vendredi, 2h du matin. Vieux, quelques lignes à la hâte du petit café où je les trace pendant que le garçon fait marcher la manivelle de l'aventure. Une idée m'est venue à l'esprit aussitôt après ton départ. Si le tambour-major venait dire au docteur « Monsieur le docteur, j'ai des puces dont je ne peux pas me débarrasser, connaîtriez-vous un remède ?» et que le docteur lui réponde « Il y a un moyen radical, peignez-vous les jambes en bleu ciel, ça leur flanquera une telle trousse qu'elles ficheront le camp comme un seul homme. Elle est bonne, hein, pense donc à ça. » Valet et Tibi, ton vieil ami, F.H. Chapitre 9. Octobre a des mélancolies. Le front posé à ses mains que glacent les vitres de sa chambre à coucher, Marthe, qui regarde les passants aller et venir par les trottoirs, pense, épouvantée, « Qui donc suis-je ? Et d'où vient que je n'ai plus de rancune contre lui ?» Prête à partir, elle est habillée de sa jupe noire à pois blanc, d'où déborde insensiblement la pointe d'un petit soulier jaune. Un mantelet couvre ses épaules, et son chapeau, fleuri comme un champ en juillet de bleuets de coquelicots, est là, à portée de sa main, que retient une pudeur dernière. Elle est là, lâche, fronche-t-elle. Oh, tu finiras bien par y aller. Lâche, sans doute. Et le ciel en soit loué. Allons, Marthe, prends de fausses honte. Mets ton chapeau, et pique en tes cheveux ta voilette. La folle qui boude son cœur. La folle qui voudrait que la vie donne plus qu'elle ne peut donner. La folle qui n'ose pas aller à ses amours quand elle meurt d'envie d'y courir. Mets ton chapeau aux noires épaisseurs de ta nuque, épingle le tulle léger. Est-ce ta faute si l'amour est comme ses enfants, un peu rageur, un peu querelleur, dont on dit que le fond est bon et qui crie comme de petits putois parce qu'on leur a tiré l'oreille et qui, le dos tourné, n'y pense plus? Tout l'amour, pauvre et tendre cœur, ne tient-il pas dans le souvenir de s'être embrassé à la bouche? Et ne faut-il pas tout ramener au vers charmant du chansonnier? Qu'importent les trahisons des lèvres que nous baisons, si ces lèvres sont jolies? Brusquement, Marthe se résout. Louise! Dans l'entrebâillement de la porte, Louise passe sa tête de souris. « Madame ? Je sors. Si monsieur est ici avant moi, je serai de retour à midi. Bon, il fait un temps abominable, madame va être trempée. Oh, je vais à deux pas, au printemps. Marthe dit et s'en va. Oh lâche. Dehors, la pluie tombe. Une pluie d'automne, fine, pénétrante, qui raide à insensible hachure les trous noirs des portes cochères. Des fiacres passent qui éclaboussent. Et du haut de son siège, un cocher de l'urbaine regarde résigné couler devant son nez le fil d'eau échappé à la glissante pente de son chapeau de cuir bouilli. Par la rue de la Chaussée-d'Antin, elle s'achemine vers la Trinité, dont fuse le maigre clocher vers la galopade des nuages. Dans une main, son parapluie, dans l'autre, saisit à plein doigt un pli de sa jupe qu'elle retrousse, soulevant comme un rideau d'alcôve sur son bas parsemé de fleurettes minuscules. Elle file au ras des boutiques. Ses petits pieds, qu'elle avance avec précaution, délicatement, la pointe en bas, suivent les trois sentiers dont la saillie des hauts balcons de pierre, surgit du ventre des maisons, sauvegarde et protège la sécheresse. La place de la Trinité n'est qu'une mare couleur de vin doux, d'où çà et là émergent les chauves-têtes des pavés. Mais qui craindrait de glorifier en termes trop dithyrambiques l'art des femmes à ne pas crotter leurs chaussures? Marthe se dirige sur le bout du pied dans un balancement de ballerine qui s'étudie à faire des pointes. Victoire ! Les petits souliers de cuir jaune ont triomphé de cette redoutable épreuve. Ils ont abordé sains et saufs, à cela près d'une piqûre de boue sur le gonflement de l'orteil. Oh, rien du tout ! Ce qu'est une mouche à la tempe d'une jeune femme déguisée en marquise Louis XV. Maintenant, c'est la dure montée de la rue Pigalle, et Marthe, courageuse, s'élance. Seulement, au fur et à mesure qu'elle sent le but rapproché, elle modère, pourquoi donc, son pas. Oh, c'est l'essoufflement, se dit-elle. L'essoufflement, menteuse. Des pudeurs, oui, de sotte honte. L'imbécile respect humain. Ah, certes, voilà une grande sotte qui cherche midi à 14 heures, discute le baiser dont le désir la tourmente, demande avis à sa raison quand son cœur de femme amoureuse lui donne de si bons conseils. Vous verrez qu'elle n'entrera pas. Vous verrez qu'elle s'en retournera comme elle est venue, après avoir 10 minutes sous le dôme de son parapluie monter la garde devant la porte qui l'invite de la villa Bonabri. Vous verrez qu'au lieu de courir aux bras empressés à la reprendre, elle s'éternisera à se demander « Mais que penserait-il » sans se dire cette chose bien simple, qui ne pensera à rien du tout si ce n'est à s'écrier « Toi !» à lui sauter fou de joie aux lèvres et à flétrir ses erreurs, quitte à y retomber le lendemain. Enfin, pourtant, elle se décide. Oh, c'est heureux, que de temps perdu. Elle pénètre. Elle descend la pente rapide du petit chemin dont elle entend sous sa semelle crier le fin sable gorgé d'eau. Octobre est là, tout le proclame. Les grands cèdres, les ormeaux que courbe la poussée brutale des bourrasques ont l'air de saluer l'automne pour lui mieux rendre leur devoir. L'agonie des dernières verdures pourrit et sombre sous l'averse, et par les haies, veuves de liserons, les araignées tendent leur toile où s'attarde la pluie en perles. Elle est rendue. Sans bruit, elle écarte la barrière du jardinet de son ami, ouvre ensuite et pousse devant soi la porte de la maisonnette. Causal, qui s'est endormi tard, dort encore. sur l'oreiller qu'encadre une discrète dentelle, repose la tête de ce perfide. Hors du drap, dans l'écartement béant de la chemise, le calme dormir des enfants soulève la poitrine nue de ce traître. Marthe hésite, elle peut fuir encore. Et tout de bon, elle y songe un peu, mais brusquement son cœur l'emporte. Sur la bouche longuement convoitée de celui qui seul lui est cher, elle s'abat, sanglotante et folle, et elle pleure, et elle rit, et elle perd la tête, et elle est trop heureuse d'y pouvoir boire encore pour en vouloir à ses jeunes lèvres de ce qu'elles ont souri à une autre. Elle a 100 fois 1000 raisons. Ivresse de se donner corps et âme, extase de sentir sur ses dents le baiser vivant et jeune de l'être aimé qu'on croyait mort, bonheurs infinis d'être lâche, joie de s'abandonner, joie de s'aimer, vous serez donc toujours les mêmes. Mais Robert Cosal, éperdu, a pris entre ses mains le visage de Marthe, qu'il ne se lasse pas d'adorer. « Oh, c'est toi, mon Dieu, tu es revenu !» Il veut parler, haïr ses torts. Elle l'interrompt. « Non, tais-toi. Nous ne reparlerons jamais de ça. » Alors, d'un saut brusque, il s'écarte. « Viens !» Elle obéit. La voici près de lui, assise d'une cuisse au bord du petit lit, qui plie un peu sous son poids. Et ce sont des confidences d'amoureux, des papotages puérils, le trop-plein qui enfin déborde, des câlineries et des tendresses, tandis qu'au dehors la pluie tombe et que du parapluie de Marthe Amiet, posé ouvert sur les baleines, coule et s'étend une mare noire sur le plancher de bois blanc. Chapitre 10. Ce soir-là eut lieu à huis clos, ainsi qu'Amiette en avait décidé, la dernière répétition de Madame Brimborion. Elle fut singulièrement houleuse, vu le chicage survenu entre Stéphanour et Pouprol à la suite d'une observation imprudemment présentée par celui-ci à celui-là, sur le ton d'aménité particulier à son genre d'éloquence. L'intervention conciliatrice de Modruc, qui était sorti de l'aventure avec sur l'œil droit un coquard fâcheusement détourné de sa destination, et enfin l'expulsion de Hour, qu'un quadrille de machinistes mobilisés pour la circonstance avait empoigné par les membres tant supérieurs qu'inférieurs et déposé sur le trottoir devant l'entrée des artistes comme une paillasse hors d'usage. Or, cet homme considérable s'étant redressé sur ses pieds, puis acheminé vers le faubourg Montmartre, en affirmant que le thermomètre pèterait sous la poussée de l'alcool le jour où on le repincerait au sein de cette bande de crapules, Cosal se dit que le moindre de ses devoirs était d'accompagner Hélène, qui ne pouvait sans imprudence regagner seule la butte à cette heure tardive, et de la déposer rue de l'Orient, avant de réintégrer lui-même les solitudes de la villa Bonabri. Il monta donc à la loge de l'actrice. « Toc, toc, qui est là ?»« Moi. »« Mais qui, vous ?»« Un Cosal, on peut entrer ?»« Ah, je crois bien qu'on peut entrer, c'est bon, je vous préviens, je suis en chemise. »« Pas dans ce sens, la clé, donnez le tour à gauche. » À gauche, donc, à gauche, on vous dit. Oh, Dieu, que les hommes sont maladroits. Madame Tourdebec, s'il vous plaît, bien aimable d'aller ouvrir, ou ça n'en finira jamais. Merci, Madame Tourdebec. Bonsoir, vous. Bonsoir, Hélène. Quelque chose ne va pas, vous venez me gronder. Oh, vous gronder. Si je commettais ce crime, j'en garderais l'éternel remords. Non, je viens tout bonnement mettre mon bras à la disposition du vôtre. Il est tard, les rues ne sont pas sûres, et on se doit aide et assistance entre vieux Montmartrois comme nous. Oh, quel chiptique vous faites, dit Hélène touchée. Vous n'avez que de gentilles pensées. Oh, j'accepte avec grand plaisir. Alors, tout de bon, là, sérieusement, ça va comme vous désirez? Vous n'êtes pas trop mécontent de votre petite interprète? C'est-à-dire, répondit le jeune homme, que tout le succès sera pour vous. Que vous êtes adorable, c'est bien simple, et que je vous mangerai de baisers, si je ne craignais d'être indiscret. Sans blague, fit-elle alors. Oh, une minute en ce cas, le temps de tremper mon nez dans l'eau. En une cuvette géante, ou un ménage de canard cupu barboté à son aise, elle plongea jusqu'aux épaules. Ainsi, vue de dos, la croupe saillante, elle apparut un instant comme sans tête, toute rose en haut par la chair de ses bras, toute noire en bas par ses bas de curé dont on sentait à travers la chemise se prolonger le deuil à mi-cuisse. S'étant redressée, elle déchaîna un vacarme d'inondation, et elle demeura aveuglée, battant l'air de ses mains éperdues, avec des cris de moutarde et barbouillés à l'eau de puits. Bouh, misère en Prusse, que c'est froid, bouh. Ah, madame Tourdebec, la serviette, vite, vite, madame Tourdebec. Déjà, elle était devant Causal, lui présentant sa joue rebondie, séchée en un tour de main, et que la fraîcheur de l'eau avait enluminé en ton de pomme d'api. Lui, il embrassa de tout son cœur. « Bon petit chat » murmura-t-il. Puis à demi-voix, « Oh, fichtre, sapristi ! Oh, diable, j'aurais jamais cru cela de vous !»« De moi ?» demanda Hélène, « de moi, mais qu'est-ce que vous n'auriez jamais cru ?» Elle le regardait, intriguée des airs entendus qu'il prenait, du rire malin et mystérieux dont il compliquait son mutisme. Brusquement, elle comprit avoir sur le clair-obscur de son jeune corps bâillé les chancrures de sa chemise, tandis que lui, s'émerveillant, appréciait très bien, très joli, comme un spectateur bien placé, qui goûte le jeu d'une comédienne ou applaudit au cinéma le relief d'une projection bienvenue. Elle eut, pour la forme, le petit cri d'une Diane surprise qui s'en fiche. D'ailleurs résignée d'un mot, petite traîtrise des choses. Ah, et puis qu'est-ce qu'on ça peut faire? Vous êtes mon auteur, après tout. Envisagé particulier, dont le poète de Madame Bourbon prisa très fort la sagesse. « mais oui, dit ce bon jeune homme, une paternité dans la voix. L'auteur et le médecin, ça ne compte pas. C'est égal, vous vous y entendez, à cacher le dessous de vos cartes. Voilà une petite sournoise. » Historiographe consciencieux des faits et gestes, des fantoches dont nous achevons de crayonner les silhouettes, nous pousserons le culte du vrai jusqu'à reconnaître qu'Hélène eût pu utiliser ses bas comme cuissards sans que les mailles tendues à l'excès courussent le risque d'éclater. Elle pensa défaillir d'orgueil au sous-entendu de ses propos empreints de la plus vile flagornerie, et elle réfugia, tant bien que mal, son embarras bien naturel dans un méli-mélo confus de coq à l'âne. « Oui, c'est gentil. Asseyez-vous donc d'être venu. Ah non, pas cette chaise-là. N'est-ce pas que je l'ai dit comme il faut ?» Elle a un pied qui remue. « Mes couplets !» Et l'autre qui ne va guère. « Des granules ?» D'ailleurs, la pièce est charmante. « Oh, je vous fais attendre, pardon. J'en ai pour 5 minutes au plus. » Un sofa bas longeait le mur de la loge. Il la reçut assise, toute dansante. Elle saisit le petit pantalon qui chevauchait le dossier d'une chaise prochaine, un pantalon de linon blanc où serpentaient en mauve suave des faveurs de boîte de dragée. D'un coup de rein qui la mit les 4 fers en l'air, elle en passa à la fois les 2 jambes, ripostant gaiement. Bah, tant pis, vous n'en perdez pas la vue. Aux exclamations faussement scandalisées de Causal, qui commençait à trouver drôle le parti pris systématique où s'entêtait cet ingénu de montrer son derrière sans discontinuer. Puis, tandis qu'un genou à terre, Madame Tourdebec la chaussait, lui encapuchonnait les pieds de ses hautes bottines délacées, elle se lissa les bandeaux devant un petit miroir de poche, juste assez vaste pour qu'elle pût tour à tour y refléter chacun de ses yeux, le joli écrin de ses quenottes, et son nez retroussé d'une chiquenaude, opération délicate, qui un instant l'absorba. Enfin, hop, ah, voilà qui est fait, dit-elle en sautant sur ses pieds. Mon corsage et je suis à vous. Du menton, Causal approuva. À vrai dire, un bruit de mots vagues, sans signification précise, avait seul frappé son oreille, car toute sa pensée était retournée à Marthe, et c'est vraiment sans la moindre émotion des sens qu'il avait souri tout à l'heure à la maigre nudité de sa petite camarade. Pour en avoir désespéré, la soudaine revenue de Marlamiel avait quelque peu ahuri, mais surtout, elle avait fait naître en sa conscience pavée des meilleures intentions des impressions aussi enchevêtrées et fleuries que les haies de son petit jardin. Car nous ne saurions trop répéter à quel point il était le contraire d'un méchant, l'antipode d'un cœur sec, l'inverse d'un ingrat. Oui, il avait cela d'excellent, qu'il détestait ses erreurs et qu'il haïssait à l'égal de sa plus mortelle ennemie son aisance à y retomber. N'importe, Marthe Ariette avait trop fait cette fois. Son cœur sautait dans sa poitrine au souvenir des pauvres beaux yeux baignés de larmes souriantes, du pauvre et doux et cher visage qui s'était venu cacher honteux en son aisselle, de la pauvre et bien-aimée voix qui lui avait murmuré à l'oreille « Mais tout est bien puisque je te retrouve, aimons-nous, et n'en parlons plus. » Au comparé par réflexion de tant de noblesse chez elle et de tant de vilainie chez lui, il eut de son âme cette opinion qu'ont de leur cervelle les pochards au lendemain d'une cuite mémorable, un petit tas de boue nauséabond. Un dégoût lui vint aux lèvres. L'idée de retourner à de nouvelles trahisons le bouleversa comme une insulte. Il se vit plus abject que le chien de l'écriture, obstiné à son vomissement, et la révolte fut immense du bon vouloir qui était en lui. Pouah ! À ce moment, « Mais quand vous voudrez, fit Hélène, eh bien, et alors, vous dormez ?» Il tressaillit. « Oh, je vous demande pardon. »« Voyons, reprit Hélène égayée, il faut vous faire une raison. Si on lui a coupé la tête à l'infortuné Louis XVI, ce n'est ni ma faute ni la vôtre. Allez, en route. Il est 1 heure du matin. Bonsoir, Madame Tourdebec. » L'un suivant l'autre, ils sortirent. Un boyau de corridor éclairé de quinquets dont les réflecteurs de fer blanc prenaient la lumière sans la rendre, les jeta rue Grange-Batelière. Là. Vous devez être las, dit Causal. Depuis le temps que vous êtes sur vos jambes, on va fréter une auto, hein? Mais elle s'effara. Mais une auto, pourquoi donc faire une auto? Elle avait des instincts de grisette, des idées tout à fait arrêtées sur l'argent, exclusivement fait pour être consacré à se payer des rigolades, des gâteaux ou des belles affaires. À la question qu'il lui posa ensuite, « Avez-vous soif? Avez-vous faim ?» Elle répondit n'avoir ni faim ni soif, ceci avec une discrétion charmante de petite pauvre respectueuse de la médiocrité des camarades. « Non, je n'ai besoin de rien. Bien vrai. Et parole d'honneur, allez, donnez-moi le bras et rentrons. Causal dut obéir. Il lui offrit son bras, qu'elle prit, et près l'un de l'autre, sans se hâter, ils s'acheminèrent vers Montmartre sous un clair firmament d'automne où la lune jouait un saute-mouton de nuage en nuage. Tout en marchant, elle jacassait, revenue à sa composition du rôle de Madame Rimborion, dont elle donna les tenants, les aboutissants, les pourquoi et les parce que. Elle n'y mettait d'ailleurs aucune prétention. Fillette ravie de jouer la comédie, qui ne se lasse pas d'en rabâcher sa joie et volontiers arrêterait les parents pour leur crier « Je débute demain !» comme une échappée de couvent persécute les gens autour d'elle à rabâcher 20 fois par heure. « Je vais à mon premier bal dimanche. » Oh, c'est bien sûr pas, fit-elle, parce que je joue le rôle de Madame Brémorion, mais je suis sûr d'un grand succès. Oui, oh, j'en mettrai ma main au feu. Elle est si jolie, cette pièce. Oh, tenez, une chose qui me ravit, c'est quand le chevalier me presse sur son cœur en disant qu'il avait voulu souffler la noirceur en mon âme, mais qu'il n'a pas osé le faire parce que je lui fais l'effet d'une rose incomprise. Oh, je ne peux pas l'entendre me dire cela sans avoir envie de pleurer. Je crois toujours que c'est arrivé, que le chevalier m'aime pour de bon et que je suis une rose pour de vrai. C'est bête, c'est ridicule, mais c'est plus fort que moi. Elle s'interrompit, soupira, puis après un instant de silence, « Oh !» reprit-elle, « avoir un amoureux, un vrai, un amoureux qui vous câline, vous berce, vous dit de ces choses tendres, tendres, qu'on ne comprend pas toujours très bien, mais qui sont, enfin comment dirais-je, qui sont comme quand on vous sourit. Je vous fais rire, hein, je suis stupide. » Le coup de clarté d'un bec de gaz lui avait dénoncé le coin des lèvres de Causal que soulevait une moquerie. Lui se récria. « Quelle bête d'idée, non, vous dites là des choses charmantes, au contraire. Seulement, vous ne le tiendriez pas, votre amoureux idéal, que vous l'auriez déjà trompé avec un autre. »« Oh, c'est une erreur, » fit-elle gravement. Incrédule, il sourit. « Ah, what ?» Hélène fit halte pour le coup. Et solennelle, « Mais je vous le jure, Robert !» Sans qu'il sût au juste pourquoi, il éprouva un grand charme à l'entendre l'appeler ainsi de son prénom. Il appuya contre son cœur les deux petites mains accrochées à son bras. « Je vous crois, cher enfant, » dit-il. Et comme l'enfant, encouragé, parlait des potins mensongers dont sa bonne renommée payait, hélas, les frais, déplorait la facilité de la foule en général et de Causal en particulier, à les prendre pour argent comptant sans se donner la peine d'en contrôler les sources, il convint qu'il avait eu le tort de s'en remettre aux apparences, et il en montra de vifs regrets, soulevant cette fois jusqu'à ses lèvres les deux petites mains qu'il baisa en manière d'amende honorable. Comme beaucoup de cyniques inconscients, il était, quand il s'y mettait, d'une naïveté à rendre des points à Jocrisse. Trop évidemment femme lui-même pour que le fatras des vagues lyrismes, des poétiques aspirations, ne trouvât pas en lui de complaisants échos. Ainsi, aiguillé dans le sens de ce qu'on pourrait appeler le quiproquo sentimental, longuement il philosophère, causant de la bêtise de la vie, ou à la recherche les uns des autres, les gens de cœur errent à tâtons comme de pauvres aveugles atteints de cécité, et même privés de la lumière, chantant le plaisir que l'on goûte à échanger des idées entre personnes sympathisantes, traitant de la douceur d'aimer, de l'agrément de se comprendre, et d'autres sujets fort touchants. Il commençait à la trouver très gentille, et qu'il le fît exprès ou non, à ralentir étrangement le pas. Bien sûr, rien n'était changé à ses belles résolutions, et ses serments de fidélité demeuraient vierges de toutes les ardes. Mais enfin, il en est du mot « fidélité » comme de pas mal d'autres mots, affaire d'interprétation. D'abord, primo aida, une fois n'est pas coutume. Oh, puis il n'y a pas tromperie au sens précis du mot, quand on conserve assez d'empire sur soi-même pour rester mentalement fidèle, l'instant psychologique venu, à la dame de ses pensées, point sur lequel il était sûr de lui. Enfin, le sentiment très exact que la petite camarade ne demandait qu'à donner des marques éclatantes de sa bonne camaraderie, l'acculait comme en une impasse à la nécessité de passer pour un daim. De quoi Marthe eût été la première à rougir, ou de cueillir en toute hâte un fruit pressé d'être croqué. Conclusion parfaitement logique et qu'achevait de faire triompher la certitude chez le logicien de n'être pas pincé cette fois la main, si j'ose dire, dans le sac. Or, comme la lointaine église de Clignancourt égrenait trois coups de gond dans le calme de la nuit. Vraiment, c'est pas raisonnable, fit Hélène, que depuis 20 minutes il tenait debout devant sa porte. Il faut aller faire dodo. Déjà ? Mais comment déjà ? Voilà 3 heures qui sonnent. Et quand il en serait 4 ? Après, vous n'êtes pas pressé, que diable ? Vous vous lèverez plus tard demain. Ah, pour ça, non, impossible, 1000 regrets. J'ai rendez-vous à 9 heures chez Landoff. Mon corsage du 3 bride dans le dos. Que c'en est une désolation. Oh, diable, c'est grave. Oh, je ne vous retarde plus, Oscar. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, Robert. Elle lui tendit sa main, qu'il prit et qu'il garda. Alors, questionna-t-il à demain ? Stupéfaite. Certainement à demain, répondit-elle. Vous pensiez que j'avais l'intention d'aller faire un petit voyage et de laisser mon rôle jouer tout seul ? C'est vrai, au fait. Je vous demande pardon, mon petit chat. Je suis complètement idiot. Non, mais vous dormez debout. Ah, je commence à le croire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui, à demain donc. À demain. À demain, dormez bien, if you please. Thank you. Ne faites pas de mauvais rêves. Merci. Bonsoir, Robert. Bonsoir, Hélène. Cependant, dans la main à peine close de Causal, la main d'Hélène demeurait. Petite captive consentante, prisonnière de bonne volonté, qui se trouve très bien là où elle est et que ne tourmente pas l'impatience de reprendre la clé des champs. À propos, fit soudain le jeune homme, vous n'avez pas peur, j'espère. Peur, peur de quoi ? Oh, mon Dieu, une femme seule, la nuit, dans un quartier si désert. Oh, je tire mon verrou, ne vous faites pas d'huile. Ah, vous avez un... Tiens, parbleu ! Ah, la bonne heure ! Vous, c'est plus sûr, oui. Dame, vous comprenez, la nuit, oh, dans un quartier si désert, une femme seule, tandis que ça, comme ça au moins, vous êtes plus tranquille, tout juste. Et moi aussi, bien entendu. Oui, et vous aussi, bien entendu, nous sommes plus tranquilles tous les deux. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Alors, oui ? Quoi, alors, oui ? Une, deux, trois, ça y est ? Mais qu'est-ce qui est ? On gagne chacun son plus bas ? Ben, ça me paraît indiqué. Je crois aussi, n'est-ce pas? Dame, il me semble, évidemment. À demain, alors. À demain. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, Robert. Oh, c'était bien fini, cette fois. Sur une dernière poignée de main, ils prirent congé l'un de l'autre. Et le dos l'un à l'autre tourné, ils s'en furent chacun dans un sens. Mais comme Hélène chassait devant soi le lourd panneau de sa porte entrouverte, « Excusez-moi, lui dit Causal, qui était revenu sur ses pas, je vais peut-être être indiscret. Est-ce que vous ne pourriez pas me donner un verre d'eau? Je crève de soif, figurez-vous. » Un verre d'eau. Oh, comment donc, fit-elle. Prenez ma main et suivez-moi. Refermez la porte doucement. Là. Faites attention. Il y a une marche. Pas de bruit surtout. Marchez sur la pointe du pied. Ne réveillez pas le concierge. Chut, chut. Lorsqu'il eut bu, ah, fit Causal avec un soupir soulagé, reposant au marbre de la cheminée, son verre resté plein aux trois quarts. Hélène s'était approchée, elle le fixait dans les yeux d'un drôle d'air. « Ah, vous aviez bien soif, pauvre ami. » Ayant pris un temps. « Non, » dit-il. Ils se regardèrent, ils se sourirent. Derrière le cou de Robert Causal, Hélène croisa ses mains gantées. Une veilleuse qui brûlait à ras d'huile dans un coin projeta sur le mur l'ombre énorme du muet baiser qu'ils échangèrent. Oh, jeunesse, jeunesse, jeunesse! Une heure plus tard, sur la frêle épaule de la petite, le jeune homme posa son front. Elle le laissa faire, docile, heureuse de sa douce victoire, souriante à ses pâles paupières qu'elle avait closes. Et déjà, dans la brume du rêve qui devient sommeil, il revivait la minute, l'inoubliable minute connue le matin aux côtés de Marthe, quand il eut la vague conscience d'une bouche qui frôlait la sienne, d'un baiser qui se posait là, fleur de lèvres, comme une invitation au repos pleine de gratitude et de sollicitude tendre. « Bonsoir, Robert. Bonsoir, Hélène. » Et il tomba au néant. Chapitre 11. Vers 9h30, lesté d'une douzaine d'huîtres, d'un gruyère et d'un mazagran, Causal s'achemina à petits pas vers la rue Grange-Batelière, bien que le ciel fondît lentement sur le pavé gras de Paris et que l'usage du parapluie lui ait été de tout temps inconnu. Il avait, comme on dit, des nerfs sur l'estomac, et il estimait qu'un peu de marche contrarierait l'effet fâcheux, au point de vue de la digestion, de cette insolite présence. Sans être exactement fixé sur la cause de son inquiétude, il était cependant inquiet. Au fur et à mesure que ses pas rapprochaient de lui le théâtre et l'émotion de son premier début, une appréhension lui venait, touchant l'accueil réservé à sa pauvre Brimborion. Mignonne silhouette dont il avait eu la faiblesse, il se rendait compte à présent, d'abandonner la grâce fragile aux pattes créatrices, donc meurtrières, d'Amiette. Puis Amiette lui-même l'intriguait, brusquement tombé depuis 2 jours des fougues de sa fièvre habituelle, un calme plat, gros de mystère. Tel que la veille aux couturières, il était resté tout un acte, sans seulement interrompre une fois le coude au velours du balcon, fixant sur le jeu des acteurs un regard qui ne les voyait pas, et les coins de la bouche relevés sur un sourire, dont certainement le livret de la pièce, pas plus que l'interprétation, ne pouvait revendiquer l'honneur à leur profit. Aussi le jeune homme, que hantait malgré lui la crainte de voir le copain envoyé tout promener à la dernière minute, sait-on jamais, avec un dilettante dont la conception de l'argent est moins l'agrément d'en avoir que l'amusement d'en faire venir, eut-il un soupir soulagé à le retrouver enfin dans son état normal, turbulent, affairé, scandant du bout de sa canne le rythme de l'éloquente période dans laquelle il était lancé, comme s'il en eût voulu faire pénétrer les mots à travers le plancher de la scène, jusqu'en ces mystérieux dessous révélés en raies lumineux par les ajours des costières. La façon nette et sèche dont il cria « C'est bon, je sais mieux que vous ce que j'ai à faire !» à Modruc, qui, porte-parole du groupe massé derrière lui, présentait des observations avec une correction parfaite, le montra plus fermé qu'une forme de cachot à tout essai de discussion, d'un absolutisme bourru de vieux loup de mer, seul maître à son bord après Dieu. J'ai pas la prétention d'en savoir plus long que vous, répliqua doucement Modruc. Je me borne à vous faire remarquer. Au petit café de Cabotin, avoisinant la porte Saint-Denis, où chaque soir il venait manger une gratinée à l'oignon avant de rentrer se coucher, l'acteur, depuis quelque temps, recueillait d'assez sales tuyaux, sentait souffler à son oreille une brise fraîche de mauvais augure, flottait autour de lui une atmosphère fâcheuse, fleurant le ratage et le four, comme une salle de bain le barège. Ces camillettes, après avoir amusé le monde en piquant sa curiosité, l'avaient peu à peu agacé par ses airs de conspirateur, ses façons de jouer les harpocrates, l'index en verrou sur la bouche, et de donner à entendre aux gens qu'on allait voir ce qu'on allait voir. L'obstination qu'il montrait aujourd'hui à tenir les choses au-dessus du motif lumineux qui les couronnait d'un diadème les portes de son théâtre, tandis qu'une queue interminable piétinait dans une mer de boue sous une voûte de parapluie, n'était probablement pas fait pour lui réconcilier les sympathies d'hier. De quoi Modruc tâchait en vain le convaincre, mettant en évidence l'impression déplorable d'une mesure qui, pour en finir, ne répondait à aucun besoin. Mais Amiens n'en démordait pas. Déjà, Gutlich, tout à l'heure, étant entré comme un coup de vent par la porte du personnel, en demandant ce qu'on attendait pour laisser pénétrer le public, il lui en avait fait, de ses mains, repasser le seuil d'amont en aval, sous prétexte que l'accès de la scène était formellement interdit à toute personne étrangère au théâtre, et que le seul droit d'un commanditaire était de toucher les dividendes, quand il y en avait, bien entendu. Le calme entêtement de Modruc à revenir sur une question qu'il avait déclarée tranchée n'aboutit qu'à le mettre hors de lui. « Tonnerre de Dieu !» à la fin cria-t-il. « Avez-vous me fiché la paix ? A-t-on idée d'un gaillard qui veut m'apprendre mon métier ?» Son métier. L'originalité du théâtre de 10 heures est-elle ou non, poursuivit-il, d'ouvrir ses portes à 10 heures? Mon Dieu. Non, mais alors en quoi consiste-t-elle? Mais voulez-vous me dire ce qui me distingue du gymnase, du vaudeville ou des variétés? Où est ma raison d'être? Où est le pourquoi de ce théâtre? Qu'on me réponde. Du reste, c'est bien simple, c'est apprendre ou à laisser. J'ouvre mon bazar à 10 heures ou je mets la clé sous la porte. Vous vous débrouillerez sans moi. Il n'y avait pas de milieu avec lui. Quand il avait quelque chose là, c'était toujours le même système. L'ahurissement par la mise en demeure, le marché mis au poids des gens, d'où pour eux deux alternatives, capituler ou se brouiller. Causal dut le saisir à la manche, car il tournait les talons, gagnait le fond de la scène, filait vers la sortie. « Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Où vas-tu? »« Voyons, monsieur Amiens, disait Modruc, voyons. » Lui fit demi-tour. Il signifia « J'ai dit !» Il dit, en effet, mais à la même seconde, dans un subit retournement, dont chacun resta effaré, Et puis, vous ne savez pas. Je suis bien bon garçon de me faire tant de mauvais sang. Faites donc tout ce que vous voudrez. Allez, qu'on ouvre. Ça m'est égal. Je m'en fiche, moi, après tout, du théâtre de 10 heures. Vous vous en fichez? Oh, et comment? Ça y est, fit Cosard, je m'en doutais. Tout le temps, ça finissait ainsi. Au cœur de l'essaim bourdonnant de ses conceptions et de ses rêves, Amiette vivait en somme comme dans un harem. Ses idées lui étaient de belles filles, aux jambes nues, aux gorges dressées, aux bras blancs, cerclées d'anneaux d'or. Entre temps de séductions diverses, il s'attaquait savamment au loisir de la réflexion, quitte son choix fait et le mouchoir jeté, à sauter sur la favorite avec des rudes de mal sevrées, la prenant, la reprenant et la reprenant encore, insatisfait et insatiable, assoiffé de possession jusqu'à l'instant fatal où un spasme dernier le jetait sur le flanc, le cerveau vidé comme une courge. Sur quoi, c'était naturellement l'inévitable réaction, l'incommensurable dégoût, la haine féroce et aveugle succédant sans transition aux crises passionnées de la veille. Et alors il aurait aimé qu'elles eussent ses idées, des têtes, tellement il eût goûté de plaisir à les trancher de sa main. L'écluse ouverte, le flot entra. Ah, le théâtre de 10 heures passa un quart d'heure agréable. Le dos au revers du rideau, le haut de forme chahuté sur la pente de la nuque. Enfin, mes enfants, voyons, le moment est venu de dire des choses sérieuses. Nous ne sommes pas ici pour nous monter le cou et pour nous raconter des blagues. C'est tout de bon que vous croyez à cela ? Il pouffa tant l'hypothèse lui apparut grossière et folle. Mais réfléchissez donc un peu, ça ne tient pas debout une minute. Et avec la même éloquence, la même force persuasive qu'il avait apportée 2 mois auparavant à démontrer l'excellence et le bien fondé de son entreprise, il en démontra la niaiserie et la puérilité sans bornes. Grossier trompe-l'œil, maison de carton échafaudée sur pilotis de papier roulé, amusette bonne à être jetée en pâture aux amateurs de paradoxes. Il balayait les objections d'un geste élargi de ses 2 bras qui faisait tout de suite table rase. « Non, pardon, voulez-vous me permettre ?» Le cercle s'était fait compact. Entre les visages consternés de Cosal et du père Maudruc, la jeune Hélène, déjà prête, avançait son nez de musaraigne, sa tête spirituelle ou la bouche rouge vif d'une sidonie de bonnetier renversait l'un sur l'autre 2 accents circonflexes. Lui poursuivit, souriant et calme. « Ben nous nous sommes tous trompés, voilà, oui. » Nous avons tous été dupes d'une illusion séduisante. Et après, il n'y a pas de honte à en convenir. Nous ne sommes pas les premiers, je pense, qui aient donné dans un mirage et se soient fourré le doigt dans l'œil. Puis Cosal, désolé, pas convaincu d'ailleurs, lui demandant l'explication d'un pareil accès de pessimisme. « Bon, j'apporte ici, déclara-t-il, aucun parti pris, le pessimisme. Vois les choses comme elles sont, voilà tout. Le principe d'où je pars est le suivant. Étant donné un théâtre ouvrant ses portes à 10 heures, pour les refermer à minuit, je mets n'importe qui au défi, vous entendez bien, au défi, de lui trouver un public. Pourquoi donc ça ? Pourquoi ? Pour la raison bien simple. Que le consommateur a au plus haut degré la religion de son argent, que l'idée fixe qu'on veut le voler poursuit l'homme à travers sa vie, et que vous ne trouverez jamais 25 messieurs consentant à payer 10 francs un court spectacle quand ils peuvent en avoir un long pour le même prix. Sur quoi, comme il était écrit que rien ne resterait intact de ses arguments de naguère, il envisagea la question sous un angle différent et démontra clair comme le jour l'inanité de la légende, faisant succomber le théâtre sous la rivalité écrasante du Kafkons, du musical et du cinéma. Il établit chiffres en main, chiffres copiés au livre même de la Société des auteurs, la régularité des recettes à suivre une marche ascendante, d'autant plus affirmée que s'affirmait davantage la concurrence des établissements à côté. Curieuse anomalie, relevant en apparence du prodige et du fantastique, explicable pourtant, bien simplement, mon Dieu, par la raison que les temps nouveaux apportent les lois nouvelles, et que le besoin ayant créé l'organe pendant des temps immémoriaux, c'était l'organe aujourd'hui qui devançait et créait le besoin. D'où il tirait cette conclusion que la multiplication des établissements à côté devait logiquement, fatalement, multiplier la clientèle des théâtres réguliers, comme multiplie la clientèle des taxis et des autobus, la multiplication des réseaux du métro. Aussi bien n'insistait-il pas, touchant les destinées écrites en lettres de feu du pauvre théâtre de 10 heures. Oh, ce que je vous en dis, vous savez, c'est tout en bien et tout en heure. Je ne demande qu'à être dans mon tort, seulement. » Et il avait le rire narquois où s'abrite le quant à soi des convictions qui veulent bien pousser la bonne grâce, je ne peux pas y mettre d'entêtement. « Bon, vous verrez ce que je vous dis. » Des objections s'élevèrent qu'il ne discuta plus. Parfaitement, nous sommes tous d'accord, c'est une affaire entendue. Du Mouchel, éclairez la salle, on peut ouvrir au public. Place au théâtre, place au théâtre, tout le monde en scène pour le 1. Et tombé dans l'excès contraire, il témoignait d'une bonne volonté ridicule, affectait un zèle bruyant dont hurlait le chiquet mensonger. Modruc, sa montre au doigt, lui ayant fait remarquer qu'on ne pouvait frapper les 3 coups avant au plus tôt 10 minutes, il l'écarta. « Oh, ça va bien, ne vous occupez pas de ça !» Il tomba sur le chef maciniste. « Hé, vous, qu'est-ce que vous faites là? Gardez-moi un peu ce châssis, vous ne voyez pas qu'il va nous tomber sur la tête. Les musiciens à leur pupitre. L'avertisseur, mais qu'est devenu l'avertisseur ?» Visiblement hanté d'une conception nouvelle, sa pensée lui apparaissait à la manière d'un de ces logements de garçons d'où ne veut pas déguerpir une vieille maîtresse, tandis qu'une maîtresse plus jeune attend sur le palier et qu'on lui cède la place. De 2 ordres donnés à la fois, il fit ouvrir les portes du théâtre et attaquer l'ouverture par l'orchestre. Le rideau se leva sur un brouhaha de pieds traînés, de corps à corps entre strapontins réfractaires et spectateurs exaspérés, de discussions interminables entre messieurs possesseurs à 3 d'un même siège, Amiette ayant tenu à établir en personne le service de la critique et des auteurs, sous prétexte que rien n'est convenablement fait, qu'on n'a pas pris soin de faire soi-même. Puis quand enfin le calme se fut rétabli, une stupeur générale plana. Ah, ouh, cette fois encore, n'avait pas manqué le coche. Cet habile homme, docile aux vœux des évolutions récentes et aux dures exigences des temps où nous vivons, avait affirmé à nouveau le don qu'il avait reçu des fées à sa naissance, de se plier aux circonstances et d'être le messie attendu chaque fois que s'en présentait l'occasion. La deuxième scène de Madame Rimborion touchait à peine à sa fin que la salle, déjà fixée, saluait de ses ricanements l'inspiration exhumée de Clapisson et de Loïsa Puget. C'était en effet très bien. Oui, c'était vraiment très gentil, cette musiquette fredonnée à la chanterelle des violons, rappelant les chevrotements tremblotés d'une aïeule au berceau d'un nouveau-né, et évoquant par son accouplement à la poétique extravagante d'Amiette l'idée d'un monstre assemblé à un autre. Quelque chose comme la femme colosse et la petite princesse Tom-Pouce. Ça, fit Baudric, qui de la coulisse tendait vers les bruits de la salle une oreille expérimentée, oh, c'est l'emboîtage dans 10 minutes. Mais Amiens s'en moquait un peu. Il avait pris Causal sous le bras. Il l'entraîna jusqu'en son cabinet où, de la même voix dont marchant à la mort, Danton répétait à Camille: Mais laisse donc cette vile canaille! Mais laisse donc cette misère, lui dit-il. Tiens-toi, prends une cigarette, et ne fais pas plus longtemps une figure de 4 mètres 20 qui jure avec ta distinction native comme avec ta coupe de cheveux. Ligo, va, qui croit que je le lâche et qui crie à la trahison, quand je viens justement à lui, un galiot entre les bras. Assieds-toi, je te dis, fume, écoute et surtout, pas un mot de ce que tu vas entendre, pas un souffle à qui que ce soit. Ayant dit, lui-même prit une chaise et, barnum inconscient, montreur à son insu du musée de figures de cire qu'était son étrange génie, il tira le rideau aux yeux de son ami sur sa dernière et sa plus belle création. Et tandis qu'il mettait en branle les rouages de la mécanique, expliquait la combinaison, l'installation à Paris de la roulette et du 30 et 40, fonctionnant officiellement sous le contrôle des pouvoirs publics, la pluie des millions, conséquence logique de l'affaire, la répartition en 3 parts du gain obligé de chaque jour, l'une pour lui, l'autre pour l'État, la troisième. Écoute ça, Causal. Immédiatement converti en rente 3%, incessible et insaisissable au profit des femmes de perdants, lesquelles se trouvaient ainsi d'autant plus favorisées que les maris joueurs l'étaient moins, ou, oui, et tandis qu'il développait cette conception prodigieuse, répétait: Ah, comprends-tu? Mais c'est l'utilisation du vice, la moralisation du jeu, la nécessité pour les chambres d'accueillir par acclamation un projet profitable à la chose publique autant qu'à l'individu. Et au bout de tout ça, la fortune dont tu as ta part comme de juste. Ah, bon garçon, songeait Causal, bon garçon. Sans doute, il lui avait gâché sa petite histoire, tué ses petites espérances, perdu son petit bien. Mais quoi? Quelle rancune possible contre un homme qui parlait avec une telle voix, regardait avec de tels yeux, souriait avec un tel sourire? Puis, oh, il faut être juste aussi. Lequel de lui ou d'Amiette avait le plus indiscrètement usé du petit bien de l'autre? Et ému du mouvement si gentil de son ami, lui taillant tout de suite sa part d'un gâteau qui ne serait jamais cuit, d'une chimère qui resterait chimère, ne doutant pas une seconde que la nouvelle vision de cet illuminé suivrait la destinée commune aux visions issues de ce cerveau éternellement en travail et s'en irait après tant d'autres. Où vont les belles filles, là? Il lui tendit ses mains ouvertes et d'un ton de conviction touchée, si admirablement feinte qu'elle ne pouvait faire aucun doute, il lui dit: Oh, je te remercie 1000 fois. J'accepte avec reconnaissance. Tu es bien gentil, mon vieux.